Donc la troisième présentation de la matinée qu'on va voir, donc après avoir vu le point de vue technologique et le point de vue juridique, notamment lié à la protection donc, de vos données, issues des objets connectés, mais même au-delà, issues des processus numériques. Là, on va voir un point de vue philosophique. Donc, c'est Sarah Lamandin, qui est chargée de mission en philosophie pour l'atelier Internet lyonnais, qui va nous parler de les objets connectés, que changent-ils vraiment. Donc, s'il vous plaît, je vous laisse la parole.
Bonjour. En fait, moi, je suis effectivement chargée de mission auprès de l'atelier Internet lyonnais, c'est-à-dire que je fais de la recherche pour eux et avec eux. C'est un atelier qui se déroule au sein de l'ENSIB, qui est l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques, à l'initiative de M. Guichard, donc, qui est professeur des universités donc, à l'ENSIB. De la même façon, je suis aussi enseignante en ce moment en Master 2 de sciences de l'information sur des questions d'usage et sur des questions de philosophie de la technique. Je suis moi-même issue d'une double formation à la fois en philosophie, et en philosophie des sciences plus particulièrement, et en sciences de l'information. Ce matin, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de ne pas répéter éventuellement des éléments de contexte. Moi, tout simplement, les objets connectés, ça ne fait pas du tout partie, contrairement aux autres intervenants, de ma discipline professionnelle. Ma discipline professionnelle, ce serait plutôt la philosophie. Et en philosophie, quand on nous donne un sujet, ce qu'on fait, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de définir ce sujet. Et quand on essaye de définir notamment les objets connectés, ce qu'on rencontre, c'est des discours. Les discours, c'est important de les analyser à propos des techniques, car ils font vraiment partie du processus de constitution de ces techniques. Et ils sont révélateurs en cela d'une certaine configuration de la société. Quand on va voir ce que c'est les objets connectés, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une définition commune, une définition unifiée de ce qu'était l'objet connecté. On rencontre effectivement plein de résultats. Si vous tapez dans Google objet connecté, il y a des millions et des millions de résultats qui arrivent. Si on va regarder un petit peu les trends, c'est-à-dire avec différents outils comme Google Trends ou d'autres choses, on voit que c'est a priori quelque chose qui augmente en termes de popularité comme terme, que ce soit dans les médias ou bien même sur les blogs, sur les forums, etc. C'est un terme à la mode, il est associé souvent aux questions des startups, dans l'industrie. Il a l'air séduisant, c'est quelque chose au niveau du vocabulaire. On retrouve des termes anglais, tout plein de néologismes. Et au niveau de la proportion du phénomène, effectivement, quand on prend ça de loin, ça a l'air absolument énorme. Ça concerne des ordinateurs, des caméras, des voitures, tout un tas de choses. On est absolument incapable de limiter le champ que ça concerne. Potentiellement, ça concerne à peu près tout et n'importe quoi qu'on manipule tous les jours. On disait tout à l'heure que les industriels les plus confiants disaient même plus 23,1% pour arriver à 50 milliards d'objets connectés en 2020, avec un petit raccourci qui consistait à dire que ça fait à peu près 7 par personne. En réalité, les objets connectés, c'est beaucoup des objets industriels, ce n'est pas des objets forcément individuels du quotidien qui ont été connectés. Effectivement, quand on parle de start-up, par exemple, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la plupart des start-up, je chiffre ça à peu près, c'est pas scientifiquement tout à fait exact, mais je chiffre ça à peu près à 90% des start-up autour des objets connectés qui disparaissent dans les 3 ans. En réalité, les objets connectés, même si c'est quelque chose qui a l'air de faire vendre, c'est un concept vendeur, les start-up, elles disparaissent au profit des grands groupes. Hein. Les objets connectés, c'est vraiment une question d'industriels, de gros industriels. L'autre question que je me suis posée aussi, c'est pourquoi connecter les objets finalement ? Revenir au béaba. Donc, objet connecté, ça nous fait penser au Web 3.0, le Web of Things. Avant ça, pour revenir un petit peu basiquement, il y avait le Web 2.0, sur lequel il pouvait y avoir de l'interaction. Le Web 3.0, c'est non plus nous qui pouvons interagir avec la machine, avec le contenu, mais les machines qui, entre elles, peuvent interagir. Le gain potentiel, c'est quoi ? C'est éventuellement gagner en intelligence. Effectivement, avoir par exemple une montre connectée, on peut dire « Ah bah tiens, ça nous permet de faire tout un tas de croisements, c'est super chouette, elle va pouvoir évoluer de l'intelligence en tant qu'apprentissage d'une certaine façon. » Je parle d'apprentissage de machine. Ça va nous permettre aussi de faire évoluer les machines, par exemple, pouvoir les mettre à jour très très facilement. Ça va permettre d'automatiser tout un tas de process et donc de gagner en productivité, de gagner en termes de productivité au niveau de l'industrie, mais aussi au niveau individuel. Et bien sûr, la dernière chose, c'est super, on va générer un énorme flux de données, on va avoir tout plein de données qui vont être exploitables et créer de la valeur. Bon, ça, c'est des discours qu'on rencontre. Le côté smart de l'objet connecté, là je vais me concentrer plus sur l'objet connecté qu'on posséderait nous-mêmes, à savoir par exemple notre caméra connectée, on parlait du babyphone tout à l'heure. Là où autrefois la fonction était vraiment dans le produit, aujourd'hui elle est déportée du produit, elle est déportée par exemple dans une application, dans ce qu'on appelle le cloud. Bien sûr, là on va voir tout à l'heure que ça pose des problèmes. Finalement, on transforme nos objets du quotidien, qui étaient éventuellement, comme les téléviseurs, déjà des objets de réception, en objets émetteurs et en objets communicants. Une de mes questions que je me pose en tant que philosophe des sciences, finalement, c'est est-ce qu'on est vraiment là face à un changement de paradigme, c'est-à-dire un paradigme technique? Est-ce que fondamentalement, la technique a changé, a révolutionné? Parce qu'on entend aussi la révolution, on a tout un champ lexical de la révolution, de lendemain, de promesses, on va dire, des objets connectés. Et la promesse principale sur le grand public, en tout cas ce qui est communiqué par les médias, dans les discours éventuellement politiques, c'est l'accessibilité à tout un champ de possibles, et notamment pour le grand public. Un des dénominateurs communs des discours, c'est l'innovation, c'est le caractère innovant des objets connectés. Or, on va essayer de déconstruire un petit peu ces discours-là, dans un premier temps, de déconstruire effectivement ce caractère innovant, voir qu'est-ce qu'il en est de l'innovation, qu'est-ce que ça change exactement. Dans un second temps, je vais essayer de voir quels sont les enjeux techniques et qu'est-ce que ça pose comme question au niveau scientifique, hein, bien sûr. Et enfin, j'évoquerai de nouveau, comme ça a déjà été fait, mais sur un autre plan, la question des données. La question des données, effectivement, les questions éthiques que ça peut poser, mais même les questions scientifiques que ça peut poser. Donc, dans un premier temps, les techniques, en général, et surtout les techniques innovantes, sont vraiment accompagnées de discours que j'appellerais discours d'escorte. Il y a tout un tas, autour des objets connectés, de journées qui sont organisées très régulièrement. J'ai moi-même pu participer aujourd'hui, mais à d'autres journées. Même au-delà de ça, il y a vraiment des articles qui sont écrits en termes de recherche, hein, c'est vraiment un sujet à la mode. De plus en plus, il y a des crédits. C'est quelque chose qui est vendeur. Voilà. Or, du point de vue de la nouveauté, nous vivons quand même depuis longtemps dans un monde qui est peuplé d'automates. On parlait de Smart City tout à l'heure, mais des objets qui fonctionnent à distance, par exemple, je pense dans les Smart City, les feux tricolores, c'est quelque chose qui existe quand même depuis très longtemps. Hein. Les jouets télécommandés, les portails automatiques, et effectivement, le cas du téléphone, qui a l'air de mettre ça à une nouvelle échelle. Si on reprenait une technique un peu plus ancienne et qu'on lui appliquait le même discours qu'on applique aujourd'hui à cette technique innovante qui sont les objets connectés, par exemple le téléviseur. Et si on disait, ah bah oui, le téléviseur c'est génial, si on avait dit, ah bah le téléviseur c'est génial, il faut aider les gens à s'équiper, il faut faire de la recherche sur les téléviseurs, vraiment ça va transformer le social. On voit bien aujourd'hui avec le recul le ridicule de telles assertions. On va pas aller aider les personnes à s'équiper pour qu'elles puissent apprendre, effectivement. Finalement, on peut se poser la question de savoir si ces discours autour des objets connectés n'ont pas quand même un fond de pousser à la consommation potentielle. Là où il y avait saturation des marchés précédents, on le voyait sur le graphique tout à l'heure pour l'intervention sur les smart cities, il y avait les téléphones, etc. Et est-ce que les objets connectés ne représentent pas alors l'ouverture d'un nouveau marché? Si on étudie les intérêts qui sont ici en jeu, ce sont des enjeux commerciaux. La recherche doit s'allier à des industries pour être financée. Et tout ce discours qui concerne le fait d'offrir les possibilités à tous, d'offrir l'accessibilité à tous, mettre de côté complètement des questions de littératie, c'est-à-dire des questions d'accessibilité réelle, des questions de connaissance du grand public, en fait. Les questions de prise en main des outils et de ce qu'ils vont pouvoir réellement en faire. Aujourd'hui, les objets connectés bidirectionnels, c'est-à-dire c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais de communication, sont bon marché. Il y a tout un tas de composants comme les processeurs ou même de techniques, on va dire, c'est-à-dire par exemple de programmation, qui ont rendu accessibles et qui sont la raison principale du développement de ces objets connectés, que ce soit des montres, des caméras ou d'autres objets effectivement qui sont dotés de capteurs. Les objets connectés deviennent vraiment des produits de consommation accessibles au plus grand nombre. Mais cependant, combien d'utilisateurs vont savoir et, d'autre part, désirer mettre à jour tous ces objets ? Alors où aujourd'hui, effectivement, dans le web, on parle beaucoup de surcharge cognitive, de désorientation. On est surchargé d'informations. Est-ce qu'il ne faudrait pas évoquer, effectivement, les incompatibilités de format, de connexion ? Si demain, notre système de montres connectées change complètement, combien de personnes vont être vraiment à même de mettre à jour leur appareil de façon correcte et d'en comprendre tous les enjeux ? On peut estimer qu'on exploite nos objets connectés à une très 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 faible proportion de leur potentiel technique. On a des objets qui sont marketés, dont on fait la publicité en disant « Oui, mais regardez, il a un processeur qui fait ceci, qui fait cela. » Au final, on sert des montres pour quoi ? Pour compter le nombre de pas ou pour aller envoyer un SMS. C'est quelque chose de complètement dérisoire par rapport à la puissance, vraiment typiquement des composants électronique. Bon, certes, par ailleurs, les objets connectés qui sont peu médiatisés, c'est-à-dire dans l'industrie, eux vont continuer leur essor, hein, bien sûr. L'industrie de l'automobile, de l'armement et de la santé vont en profiter de la même façon qu'elles vont en stimuler le développement aujourd'hui, en fait. Mais ce progrès industriel ne touche pas du tout tout ce qui a trait à l'interconnexion et tout ce qui a trait donc au discours qui s'applique au grand public. Tout ça ne s'applique pas du tout aux objets du quotidien. Quand je parlais de faire attention au discours d'escorte des nouvelles technologies, on a pu effectivement ces dernières décennies entendre à plusieurs reprises ce discours optimiste sur les nouvelles technologies. Je vous rappellerai par exemple des discours sur le CD-ROM ou sur le Minitel qui nous paraissent aujourd'hui complètement obsolètes. Et pourtant, c'était bien le même discours avec le fond social, c'est-à-dire De dire que ça allait pouvoir faire évoluer, changer la société. Et c'était vraiment des objets porteurs d'un futur enchanté, futur enchanté qui s'est aujourd'hui déporté dans les discours sur les objets connectés. C'est ce qu'on appelle effectivement un déterminisme technique. Ces discours ont une véritable fonction sociale. Cette quête vers un idéal qu'on reporte sans cesse permet de faire passer au second plan des questions qui concerneraient les inégalités sociales. Là où tout à l'heure... Vous citiez l'exemple effectivement du bracelet qui protégerait du viol. C'est aussi une façon de ne pas se poser la question de pourquoi ces inégalités sociales entre hommes et femmes et pourquoi tant de viols. Mais on intervient directement en réglant le problème, en offrant une solution technique à ce problème-là, sans prendre en compte effectivement les rapports de pouvoir ou les rapports structurants de la société. Ces promesses de changement prochain sont vraiment l'écho d'un ordre qui cherche à se maintenir. Une mauvaise estimation des écueils comme des opportunités offertes par cette technique. C'est ce qui nous est offert dans les discours, c'est une utopie de l'égalité. Elle illustre ce qu'est Internet comme continuité, comme produit social. On ne réorganise pas du tout ici les catégories du savoir, ni les rapports du savoir et du pouvoir, mais on offre un discours qui nous permet d'apaiser le social. Peut-être alors charge-t-on l'innovation numérique et aujourd'hui les objets connectés de trop d'espoir ? On en attend en effet énormément d'eux, hein, que ce soit sur les smart cities, sur la construction, sur notre quotidien. Et c'est très important de se demander quelle est la part d'idéologie derrière ce postulat, hein, comme ascenseur social éventuel, etc. Est-ce que finalement, c'est pas mettre de côté et choisir une solution de facilité ? On se dit finalement, tout ça, le marché arrivera bien à se réguler avec un système d'offres et de demandes. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment tant besoin d'offrir de l'humain ? Par exemple des médecins pour prévenir des crises cardiaques ou des enseignants pour enseigner aux enfants. Si on mettait une tablette ou un capteur cardiaque, c'est une solution technique, ça permet de court-circuiter tout ça et ça va plus vite, c'est un pouvoir quasi magique en fait. Hein. Ce qu'on constate au final, c'est qu'il n'y a pas de changement fondamental des pratiques. Il y a peut-être l'aspirateur qui est connecté, mais c'est toujours en majorité les femmes qui font le ménage. Il y a peut-être des capteurs qui de course, mais on court toujours à peu près avec ses deux pieds. Et puis il y a des capteurs de perte de poids sur la balance, mais c'est toujours utilisé par les femmes. Il y a toujours cette injonction à la perte de poids. Et finalement, là où il pourrait y avoir interconnexion, quand il y a partage des données, il ne se fait pas hors du cercle de connaissances, hors du cercle social déjà déterminé, déjà en place, en fait. Hein. Si on partage nos données de jeu, on partage des SMS, on partage nos données de course, ça sera fait soit avec des gens qu'on connaît, soit à des gens qui font partie potentiellement du même cercle social que nous, c'est-à-dire qui partagent nos intérêts. On ne va pas soudain se mettre à échanger des SMS avec le président de la République ou échanger nos données de course avec les premiers ministres parce qu'on a une montre connectée ou qu'on a un appareil qui le permet. Les catégories sociales restent les mêmes que celles qu'elles étaient avant. Il y a vraiment une surévaluation des potentiels de l'innovation. Les sociétés, même plus loin, on peut dire qu'elles reposent non pas sur toutes ces innovations, mais sur des infrastructures qui sont anciennes d'une certaine façon dans le train de la technologie. Les sociétés reposent sur le fait que les trains soient à l'heure, sur le fait que les voitures elles roulent, pas du tout sur le fait que notre voiture elle est capable de communiquer. Et même plus que ça, les sociétés elles reposent avant tout sur la maintenance, c'est-à-dire sur la plupart des actes techniques aujourd'hui réalisés ne sont pas des actes d'innovation ou sur des outils innovants, mais sur la maintenance d'anciennes techniques. Et au-delà de ça, un des enjeux techniques des objets connectés, c'est bien sûr leur maintenance. Alors, j'aimerais évoquer effectivement les lois du marché, l'industrie a ses lois, et on peut dire que la plupart, 96-97% des produits nouveaux vont disparaître dans les 2 ans. Par exemple, on peut se rappeler des Google Glass. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de gens qui portent des Google Glass, alors que quand même, le discours qui accompagnait ça, c'était ça va être complètement révolutionnaire et ça va changer toutes nos habitudes. Bon, non seulement ça va pas changer toutes nos habitudes, mais en plus, ça a disparu et ça n'existe même plus. Une seconde loi va favoriser les grandes entreprises. Ça va être ce que j'ai cité tout à l'heure sur les startups qui espèrent faire fortune avec les objets connectés. Effectivement, il y en a plus de 900 qui disparaissent dans les 3 ans. Il y a d'autres facteurs qui vont limiter et impacter l'avenir des objets connectés. Le premier, il est vraiment lié à tout ce qui est question d'informatique. L'informatique, c'est une forme d'écriture qui est particulièrement instable. On voyait toutes les questions de normes tout à l'heure. Chaque objet connecté a vraiment son système de pilotage qu'il faudra mettre à jour régulièrement. Et les problèmes de conformité avec des nouveaux protocoles, c'est des choses qu'il faut considérer aujourd'hui. Le risque que 2 appareils qui ont un système complètement différent ne puissent pas communiquer est vraiment réel aujourd'hui. Et le risque de changement de protocole amène à penser une certaine obsolescence assez accélérée à vu la vitesse à laquelle les nouveaux protocoles, cette envie de vouloir accélérer, de gagner en puissance toujours et toujours. Un des autres enjeux, on va dire techniques, des objets connectés, ça va être la capacité d'apprentissage, la capacité de compréhension et de restitution du langage. Quand on parle de communication avec l'homme, avec l'humain, et quand on parle même de communication pour un besoin humain, ces questions vont concerner la machine et le langage, qui ne sont pas du tout des questions nouvelles du point de vue épistémologique. Les questions de langage, c'est vraiment la manifestation la plus saillante de la complexité de la pensée humaine. Et cette maîtrise de plus en plus grande du langage naturel, par exemple le fait de pouvoir parler à sa montre, tout comme dans les outils qui concernent la recherche d'informations, sont tout à fait décisifs, même si nous voyons bien, ici encore une fois, qu'il existe quelque chose de l'humain qui semble complètement irréductible à la technique. Même si on arrive à discuter avec Siri sur son téléphone, j'ai pas l'impression que ça remplace effectivement notre cercle d'amis. On n'a pas arrêté de sortir et de communiquer avec nos amis. D'ailleurs, le fait est que les objets connectés, ils servent avant tout, notamment par exemple les smartphones, qui sont ceux qui sont le plus répandus, je crois, ils servent avant tout à communiquer entre humains, par des protocoles de machines, mais entre humains. Et ça, fondamentalement, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. La communication entre humains, je crois que c'est quelque chose qui est constitutif même de notre humanité. Bon, finalement, on peut se demander si ces discours d'escorte qui nous promettent un utilisateur qui va pouvoir bénéficier de tout ça, ils n'oublient pas la majorité des usages, c'est-à-dire un utilisateur complètement passif, qui ne s'approprie pas du tout les techniques et qui n'exploite pas du tout toutes les possibilités. Chacun se laisse par facilité, etc., et même par connaissance, par capacité, complètement guidé dans son usage sur les outils. Et la maîtrise de l'écriture de ces outils est une question bien, bien lointaine. Les outils numériques sont des écritures dont nous n'avons pas du tout l'habitude. Ce n'est pas des choses qui sont non plus enseignées à l'école. Il est encore plus dur d'avoir accès au même niveau de savoir qu'avant. Là où on pouvait ouvrir un livre, aujourd'hui, comprendre d'où et comment a été codée une page et éventuellement pouvoir avoir un recul critique sur celle-ci, c'est-à-dire comprendre les enjeux qui sont derrière, savoir qui est-ce qui publie. Combien d'entre vous sont capables, par exemple, d'aller dans une page et de savoir quand ça a été publié, quand ça a été modifié, par qui, et de comprendre un petit peu quels intérêts ça sert. Et tout ça, ça nous écarte vraiment de la compréhension des risques et de la compréhension de l'écriture et donc de notre pouvoir en tant que citoyen dans notre vie de tous les jours. Finalement, ici, on est vraiment face à une nouvelle littératie qu'il est urgent de s'approprier, sinon on sera vraiment réduit au silence. Par exemple, qui d'entre nous sait déconnecter l'accéléromètre de son téléphone ? Alors que celui-ci permet, par exemple, de deviner quand on se lève la nuit. Ou, par exemple, permet de savoir si on a utilisé notre clavier d'ordinateur la nuit, ben, hop, on va pouvoir faire un graphique et vous proposer des somnifères le lendemain sur Amazon, sauf que pas en France, mais voilà. Avant d'être politique, les restrictions en matière de liberté sont vraiment concrètes. Si je ne veux pas être localisée via mon téléphone, ça va être très très compliqué. Hein. Ça va être tout un tas d'étapes, parfois qui sont complètement inaccessibles. Il va falloir rentrer dans les menus, les sous-menus. Je crois que j'avais fait le test, mais sur certains téléphones, il y a jusqu'à 7-8 étapes. Rien que pour déconnecter certaines fonctionnalités comme du gyroscope, de la géolocalisation, qui paraissent pourtant être des choses tout à fait élémentaires. Effectivement, la troisième partie de ce que je voudrais évoquer, c'est des questions de sécurité et de recueil des données. Et donc, les objets connectés, je vais faire un petit rappel, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais en octobre dernier, il y a eu vraiment une attaque qui s'appelle DDoS, c'est-à-dire une attaque par déni de service distribué, qui a été sans précédent en termes d'ampleur et qui surtout nous a fait nous rendre compte vraiment du potentiel impactant du piratage par le biais des objets connectés. Cette attaque, elle a touché non seulement des services de loisirs, donc par exemple Netflix, mais aussi des services complètement professionnels sur Internet. Elle a mis à plat tout un tas de sites Internet et on s'est rendu compte de la fragilité de notre connexion à Internet. L'attaque par déni de service, je ne sais pas trop si techniquement vous savez ce que c'est on va envoyer des requêtes à un service et on va tellement lui en envoyer que ce service-là va exploser, il va y avoir une défaillance technique parce qu'il ne va pas être à même de pouvoir gérer toutes ces requêtes. L'attaque par déni de service distribué, c'est non pas quelque chose qui est directement attaqué à quelque chose en particulier, mais c'est vraiment quelque chose qui est distribué entre tout un tas d'adresses IP uniques ou d'objets, puisque là ça a été le cas. Ça a été une attaque qui a été menée de plein d'objets, notamment plein de caméras connectées ou même tout un tas d'autres objets connectés comme des interphones. La saturation a touché un service d'IP provider. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas directement un site Internet que vous pouvez voir sur le web, mais quelque chose qui fournit des adresses au site Internet. Donc, c'était un service qui était utilisé par tout plein de sites, d'où le fait que ça ait fait tomber tout plein de sites. Cette attaque était vraiment significative, parce qu'on s'est rendu compte soudain qu'aujourd'hui, il était plus simple de prendre le contrôle des objets connectés, de plein d'objets connectés, et c'était même moins cher que créer tout un tas de botnets, en fait, comme c'était fait auparavant dans le piratage. Et même plus que ça, la personne qui a fait cette... Donc, qui est toujours anonyme, enfin, on ne sait toujours pas qui c'est. La personne qui a fait cette attaque, ou le groupement qui a fait cette attaque, a mis de façon disponible sur Internet le programme avec lequel elle a fait l'attaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, s'il récupère son programme et qu'il a un petit peu de compétences techniques, est capable de reproduire cette attaque. La vulnérabilité ici qui a été révélée, mais qu'on connaissait déjà, c'est celle des mots de passe. La plupart des objets connectés fonctionnent avec leur mot de passe par défaut, que ce soit parce que l'utilisateur ne sait pas ou ne peut pas le changer, ou alors même parfois que le fait de le changer n'impacte absolument pas le fait qu'on puisse se connecter de l'extérieur. C'est la mise en péril du système Internet tout entier. Un des autres risques qui est lié aux objets connectés et aux données, c'est celui de la récolte des données que vous évoquiez tout à l'heure. Et on peut se demander finalement ici si c'est bien nous qui possédons nos objets ou si c'est nos objets qui nous possèdent. Les données personnelles, c'est, qui nous sont souvent vendues, vous allez nous donner des données personnelles et puis par ailleurs, on va vous assurer un meilleur service ou une meilleure sécurité. Déjà, par exemple, on peut citer le cas des assurances qui vont récupérer ces données personnelles. Et si demain, vous ne pouvez plus vous assurer, vous ne pouvez plus faire de prêt à la banque, tout simplement parce que votre Fitbit, il a fait le croisement et qu'il a dit « Ah bah tiens, il y avait un rendez-vous chez le médecin à tel jour, et puis c'était un cardiologue. Et puis tiens, je vois des défaillances. » Et puis là, on va vous dire « Bah non, le prêt vous est refusé, puis de toute façon, on n'est pas obligé de justifier pourquoi. C'est aussi le risque de fuite. S'il y a des données, finalement, n'importe qui peut les récupérer. Si vous avez une maladie, par exemple, comme le sida, et que c'est communiqué, ça peut vous porter un énorme préjudice. Bon, bien sûr, le problème principal ici, c'est la société qui va porter préjudice. En attendant, dans le cadre d'une telle société, est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention à ça? Et par ailleurs, un des plus gros problèmes, selon moi, c'est effectivement ce problème de profilage. Profilage qui va servir à la fois aux publicitaires, pour vous vendre plus, bien sûr, mais qui va pouvoir servir aussi comme des données qui vont vous amener à être toujours gardées dans la même constitution d'esprit. Je m'explique. C'est ce qu'on appelle les filter bubbles, et c'est le fait que plus vous regardez quelque chose par certains services, plus vous allez être orienté sur ce type de contenu. C'est-à-dire, on va vous profiler, par exemple, homme blanc, 40 ans, fait ceci, fait cela, va voir les parties de gauche, et puis va voir aussi sa tante, machin, qui a les photos de chat. Et ben, en fait, les futurs contenus qu'on va vous proposer vont être exactement des contenus qui vont vous correspondre, vous plaire, bien sûr, parce que quand on parle de contenus qui plaisent, c'est des contenus qui vont faire vendre. Vendre, bien sûr, le temps de cerveau disponible, vendre la publicité qui va être insérée, par exemple, dans Facebook, entre deux articles. La géolocalisation, bien sûr, on a parlé des problèmes que ça peut poser éventuellement tout à l'heure. Et on voit toujours cet équilibre et cette argumentation qui dit « oui, mais finalement, on veut bien abandonner un petit peu de vie privée pour des questions de praticité, etc. etc. » Mais ce n'est pas du tout considérer éventuellement des changements législatifs, des changements de gouvernement qui pourraient, dans le cadre d'un gouvernement autoritaire, complètement exploiter tous ces fichiers de données. Et d'autre part, il y a quelque chose de complètement fou dans le fait que le marché de la publicité n'achète pas vos données. Hein, vous lui donnez tout à fait gratuitement et qu'elle s'en sert, qu'elle en crée de la valeur et qu'elle vous revend des autres choses par ailleurs. Donc vous êtes le client deux fois. On évoquait tout à l'heure le cadre juridique, et effectivement, il y a cette question de la confirmation de bien valider l'accord pour donner ces données. En attendant, sur la plupart des applications, maintenant ça commence à être appliqué, seulement il n'y a pas d'alternative. Si la libre concurrence ne fait pas qu'il y a des alternatives, si vous dites non, bah, vous ne pouvez pas utiliser le service, tout bêtement. Si vous dites non à votre montre, bah, elle ne marchera pas. Par ailleurs, il y avait aussi la loi qui concerne, les projets de loi qui concernent la compatibilité, la récupération des données, que vous puissiez vous-même récupérer vos données ou qu'elles puissent être transposées sur une autre application, sur un autre objet. Et ça met complètement de côté, ou du moins ça donne pas de cadre législatif aux questions de compatibilité. Il n'y a pas d'obligation que tous les appareils soient compatibles en fait. Et par ailleurs, on évoquait, par exemple, les demandes, c'est juste, je rebondis parce que j'y ai pensé après, mais effectivement, sur la question d'effacement des données de Google, en fait, il n'y a aucune loi qui interdit à Google de récolter ces métadatas. C'est-à-dire que Google sait exactement quelles sont les demandes d'effacement. C'est quand même très, très significatif et ça permet de profiler de façon assez inquiétante, on va dire. Pour conclure tout ça, avec le numérique et les objets connectés, on voit vraiment un retour à l'objet. Ce qui est assez significatif et assez étonnant, parce que là où, par exemple, on avait essayé d'évincer le matériel en proposant beaucoup de discours autour du numérique comme quelque chose d'immatériel, la virtualité, etc., aujourd'hui, on revient vraiment au concret, et par notamment le biais des objets connectés. Les discours sont vraiment intéressants et essentiels à analyser, parce qu'ils sont essentiels au développement d'une technique. Ils font même partie intégrante de la technique elle-même. Et ce n'est pas la technique qui va transformer le social, mais c'est une certaine société qui va permettre l'émergence de certaines techniques. Les discours portent les techniques, mais aussi vont les inscrire dans le droit. Par exemple, les questions d'interopérabilité que j'évoquais, ou de DRM. Enfin, sur des questions d'analyse, on peut parler aussi de la lenteur sociologique nécessaire à une analyse et de la rapidité de ces discours, de cette espèce de discours autour de l'accélération. Il faut toujours faire plus, plus puissant, etc., etc. Alors que ce qu'on utilise, au final, c'est toujours à peu près la même chose. Nos besoins, ils ne changent pas fondamentalement du jour au lendemain. Pour conclure tout ça, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui faire attention à penser la construction de l'objet et penser comment l'objet nous construit en tant qu'humain et ce qu'on veut pour la suite et comment réfléchir à tout ça.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ?
D'où oui, la nécessité, s'il vous plaît. Je voulais dire un mot. La nécessité d'avoir ce genre d'intervention dans nos journées. Vous voyez, c'est toujours très interdisciplinaire. Bon, il nous manque aussi un sociologue. On n'a pas pu faire venir de sociologue pour faire venir. On aurait bien voulu aussi, parce que ce sont des questions très importantes, des questions d'éthique et puis et d'usage. Voilà. Donc, une question. Je suis désolée, les étudiants ont dû partir.
C'était oui, un petit peu, voilà. Ils avaient cours à l'après-midi et il fallait absolument qu'ils partent à midi. Autrement, ils auraient été en retard pour leurs cours et ils n'ont été libérés que le matin, malheureusement. Enfin, heureusement, parce qu'ils ont assisté quand même à quasiment les trois exposés.
Oui, bonjour, merci pour l'intervention. Ma question sera parce que vous, à un moment, vous avez dit que les nouvelles technologies éclipsaient un peu les problèmes d'inégalité, les problèmes sociaux. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de Facebook dans les mouvements sociaux. Est-ce que ça change les habitudes? Est-ce que ça fait que les gens restent plus chez eux au lieu de sortir? Ou est-ce que ça impulse au contraire les mouvements sociaux? Je sais pas.
Déjà, j'ai pas dit que c'était les nouvelles technologies qui éclipsaient, mais c'est bien les discours. Hein. Ouais, j'essayais de mettre en perspective tout un tas de discours sur la nouveauté, sur l'innovation, par rapport à l'impact réel qu'a l'innovation dans l'histoire en général et sur la société plus particulièrement. Effectivement, ça a été beaucoup discuté, je crois, par des sociologues. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. J'imagine que sur Facebook, etc., vous pensez par exemple à l'utilisation de l'outil Facebook ou dans le printemps arabe ou ce genre de choses. Oui, alors là on n'est pas directement sur les objets connectés, mais effectivement c'est des choses qui ont été utilisées. Après, déjà Facebook, il y a ça, mais il y a d'un autre côté, il faut vraiment s'en méfier parce que par exemple, il n'y a pas très longtemps, au niveau du Brésil, il a complètement fait l'inverse. Enfin, c'est-à-dire il a aussi tout à fait le pouvoir de censurer. Et aujourd'hui, c'est les questions qui sont là avec les accords éventuellement entre le PDG de Facebook et la Chine. Et est-ce que dans une société puritaine, ces grands groupes, finalement, ils ne pourraient pas nous interdire de voir certains contenus aussi? Il y a ça. Après, vous me disiez, est-ce que ça empêche les gens de sortir de chez eux, c'est ça? Est-ce que les gens restent pas plus? Ah oui, il y a un changement clairement, de toute façon, qui accompagne le numérique de pratiques dans le militantisme. D'un autre côté, ça permet de faire des liens et d'avoir une puissance qui n'était pas là au préalable. Hein. Je ne sais pas, peut-être.
Sur le, oui, je pense que c'était le rapport à la sociabilité finalement qui était au cœur et peut-être que alors ce qu'on disait toujours sur les réseaux sociaux derrière l'écran d'ordinateur avec le téléphone portable, peut-être que ça change un petit peu et que ça permet de s'adapter un petit peu plus facilement à des mouvements sociaux ou à des regroupements physiques en plus de la connexion virtuelle. Moi, j'avais une question, une remarque à faire, et vous remercie aussi sur votre intervention. C'est le rapport à la modernité qui me semble vraiment interrogé par ce sujet, et ce n'est pas le premier sujet à poser cette question de la modernité. Moi, je partage un peu votre perplexité par rapport à cela. Maintenant, c'est difficile aussi de tout... l'activité économique qui est générée par les objets connectés est quelque chose de réel, qui va procurer de l'emploi, qui va créer de la richesse dans un pays donné. Et alors, ça n'a de réalité que tant qu'on lui en donne. Et c'est certainement une bulle qui explosera quand on passera à autre chose. Mais c'est peut-être là le seul espace où on voit une tangibilité du discours optimiste qui peut entourer l'objet connecté. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, je n'avais pas forcément entendu la question en termes de sociabilité, mais effectivement, pour moi, je finis de répondre d'abord, ce côté individu, ça revient à une composition complètement mercantile, en fait, d'une certaine façon, parce que individualiser, ça veut dire aussi vouloir que chacun s'équipe de son objet. C'est pas des objets en commun, hein, c'est bien chacun, et c'est vraiment que chacun soit consommateur et s'est créé des nouveaux marchés en individualisant de plus en plus. Voilà, ça c'était pour finir là-dessus. Sur les questions de la modernité, oui, bien sûr, c'était tout à fait mon propos de dire que cette question elle est régulièrement posée, effectivement. Les objets connectés, comme tout un tas d'innovations, c'est vraiment le lieu à la fois de discours complètement enchanteurs, dans les deux, des extrêmes dans les deux sens. Et d'un autre côté, on a l'impression que plus la technologie elle avance, etc., plus on en revient aussi à des peurs complètement primitives, de type les robots vont piquer nos emplois, etc., etc. Les robots vont piquer nos emplois. Moi aussi, on est dans une société où c'est l'emploi qui prime, etc. Enfin, faut se poser la question de est-ce que finalement ça ne nous libérerait pas du temps pour le loisir. Enfin, c'est une drôle de crainte en fait, finalement. Quant au fait que ça génère de l'activité économique, oui. Après, attention, moi je n'ai pas les chiffres économiques, mais je disais vraiment que la plupart des startups qui sont liées aux objets connectés, elles disparaissent et finalement ça bénéficie aux grands groupes.
Les startups qui réussissent sont rachetées par les grands groupes, mais c'est une réussite dans ce cas-là. C'est pas une fin de startup comme symbole d'échec, mais
en attendant, je pense qu'il faut.
Enfin, cela dit, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je partage un petit peu.
Non, mais c'est bien.
Voilà. Oui.
Je vais être
pire total. Faut se méfier, parce que je pense que ça appartient aussi à un discours de culpabilisation. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est que vous ne mettez pas sur des nouveaux secteurs et que vous innovez pas. Or, le problème de fond, c'est pas vraiment tant les objets connectés ou pas aux objets connectés. C'est plutôt un système qui organise une pénurie d'emploi. Enfin, voilà, c'est à réfléchir plus sociologiquement, je pense.
Oui, mais après l'usine connectée ou des phénomènes comme ça, on voit bien qu'il y aura moins d'activités pour le plus grand nombre. Puisque moins, mais il faut quand même des revenus qui arrivent.
Oui, bien sûr. Pour pouvoir je pense que c'est
avoir du temps pour les loisirs, il faut d'abord avoir de quoi nourrir.
Exactement, mais ça, je pense que c'est un problème de société, un problème économique, avant d'être un problème, on va dire, lié aux objets connectés, en fait, tout simplement.
Bon, je vais également me risquer à débattre avec une philosophe. On gagne rarement, mais j'essaie quand même. En fait, je suis complètement d'accord avec vous que ça ne fait pas progresser nécessairement la société, que ça n'effacera probablement pas les inégalités. Et ça, sur ça, vous m'avez plus que convaincu. En effet, ça ne change rien à notre... Au contraire, vous avez cité l'exemple de Facebook. Vous avez cité l'exemple de la balance qui, en plus, est connectée et qui, en plus, vous fait culpabiliser parce qu'elle vous dit... Ah, vous n'avez pas perdu de poids, vous avez gagné 60 grammes, et 60 grammes devient un drame, alors qu'avant, on pensait en 2-3 kilos. Donc, sur ces aspects-là, je parle pour moi, sur ces aspects-là, je suis d'accord. Par contre, sur les avancées technologiques et ce qu'elles peuvent permettre pour l'économie, moi, je pense que ça va au-delà du discours. Vous avez cité l'exemple de la voiture connectée, vous avez dit le fait que la voiture connectée, et après. En fait, aujourd'hui, on vous dit la voiture est connectée, mais dans un objectif, aujourd'hui, une voiture connectée, on parle de degré de pénétration du marché, vu le nombre de voitures connectées, ça ne change rien. Sauf si on ne commence pas à les connecter aujourd'hui, dans 10 ans, ça ne changera toujours rien. Or, une voiture connectée, ça va être quoi ? Ça va être plusieurs choses. Le premier exemple, l'e-call qui a été cité tout à l'heure par Nina, c'est quelqu'un qui fait un accident sur une route en pleine nuit, où il n'y a personne d'autre, sa voiture prévient les secours, alors qu'il n'est pas en capacité de le faire. Et ça, ça peut sauver quelques vies. Et ça, ça peut aussi faire économiser de l'argent à des assurances. C'est économique. La voiture connectée, si on a toutes les voitures qui sont connectées et qu'il y en a une qui détecte un problème sur la route, parce que la voiture, si on parle de degré de sécurité, on avait la passive safety où je mettais la ceinture de sécurité. Point. C'est quand il y a le choc, elle me protège. L'active safety, ou même l'airbag, c'est de la passive. L'active, c'est je détecte du verglas, mon véhicule s'adapte. Je détecte que je m'approche trop du véhicule de devant. Je continue à accélérer, la voiture ralentit. Donc ça, c'est des technologies actives. Mais il y a aussi les technologies collaboratives. Aujourd'hui, un véhicule peut informer le véhicule de derrière qu'il va freiner et faire gagner 0,5 secondes à celui qui est derrière, peut sauver des vies. Et c'est dans cet objectif, éviter les accidents, éviter les dommages humains, faire économiser de l'argent aux assurances. On est d'accord, c'est pas sociétal, mais ça intéresse. Une ville comme Paris, aujourd'hui, engendre une perte de 40 milliards d'euros sur le fait que les gens sont en retard au travail, que les gens arrivent fatigués au travail parce qu'ils mettent beaucoup de temps sur la route. Si on a des systèmes de transport intelligents qui font gagner du temps, moi j'étais parisien jusqu'à il y a 3 ans. Arriver en retard à une réunion, c'est pas grave, même si c'est 3 quarts d'heure. C'est dans les mœurs. À La Rochelle, j'ai dû m'adapter. Hein. On met 15 minutes pour arriver au travail. Donc quand j'arrivais en retard de 2 minutes, malgré qu'on parle du quart d'heure charentais, les gens me regardaient bizarrement. Maintenant, j'arrive en avance. Mais en région parisienne, même rater une réunion, ce n'est pas grave. Les gens ont l'habitude. J'étais bloqué. Donc voilà. Et donc ces éléments-là, avec des systèmes de transport intelligents, des systèmes d'administration intelligente où vous pouvez savoir s'il y a de la file d'attente ou pas, je parle des villes intelligentes ici au sens large, peuvent faire gagner du temps et je peux me dire, tiens, je peux passer à la poste, j'ai un colis qui traîne depuis 10 jours, et ça c'est vrai, et dans 5 jours ils vont le renvoyer, il faudrait que je trouve le temps pour aller le chercher, sans rester 3 heures à la poste, eh bien ça peut également aider les gens à mieux s'organiser dans un but, je vous l'accorde complètement, pour moi, économique. Ça adresse des enjeux sociétaux, mais pas du spectre comment devenir plus social ou autre, mais comment être plus efficace. Bon, allez, si je veux être extrême, je dirais l'homme robot, mais voilà, pour être plus efficace. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout cela?
Exactement. Oui, non, mais j'étais pas en train de nier les évidences et l'efficacité du point de vue économique qu'il pouvait y avoir ou technologique. C'était pas du tout ce que j'étais en train de dire, mais par exemple, vous citiez le retard à Paris. Mais là encore, c'est une solution ponctuelle sans prendre en compte le problème plus global qui est par exemple la concentration de toutes les activités à Paris. Ou le fait que tout le monde doive arriver à la même heure au travail, que chacun ne puisse pas travailler quand il le sent. Ou par exemple le fait qu'il n'y ait pas mise en commun des transports de façon plus fluide, tout simplement. Ensuite, vous parliez effectivement de la voiture. Oui, bien sûr, mais encore une fois, je ne dis pas du tout que ça a pu servir ponctuellement. Par contre, j'ai l'impression, enfin, j'ai pas de chiffres là-dessus pour appuyer malheureusement, mais j'ai l'impression que c'est quand même des cas très marginaux. J'ai l'impression qu'on cite, ah bah regardez tel exemple là, à ce moment-là ça a sauvé tel conducteur. J'ai pas l'impression que ce soit si répandu que ça pour l'instant. Et en plus de ça, le fait d'avoir équipé toutes ces voitures, ça veut dire les avoir aussi équipées avec des systèmes qui sont potentiellement bientôt obsolètes, qu'il va falloir mettre à jour, ou le jour où le concepteur de ces systèmes-là va disparaître, on pourra même plus les mettre à jour en fait. Avec mise en péril de la sécurité éventuellement, s'il y avait ça, puis si on comptait dessus. Ou alors obligation d'acheter la mise à jour, sinon votre voiture elle démarre plus. C'est un peu dommage. Vous parliez au début aussi du fait que la technique n'allait pas contribuer à effacer les inégalités. J'irais même plus loin, les nouvelles techniques en tant qu'elles sont nouvelles et en tant qu'elles sont d'une écriture qu'on ne maîtrise pas encore vont même augmenter les inégalités. L'écriture, c'est vraiment un objet de pouvoir. La maîtrise de la littératie, c'est vraiment une question de pouvoir. Et une nouvelle écriture qu'on ne maîtrise pas, c'est vraiment un risque potentiel d'augmenter les inégalités. Enfin, vous parliez à un moment donné de la balance avec les 0,3 grammes qui deviennent plus importants que les 2-3 kilos. Je trouve que ça n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on disait avant, mais du coup, je trouve qu'avec les objets connectés, on voit apparaître quelque chose qui vient aussi, qu'on voit aussi apparaître dans le design sur les sites web ou même sur le contenu des sites web, qui est vraiment cette exigence de pseudo-scientificité. C'est-à-dire qu'il faut, pour que ça fasse sérieux ou pour qu'on s'y intéresse, qu'il y ait des chiffres. Et puis, plus en plus de chiffres après la virgule, alors que fondamentalement, voilà quoi. Et puis, on va vous dire, ah bah oui, bah, elle est capable à la microseconde. Enfin, dans ma vie de tous les jours, je m'en fiche de savoir combien je cours à la microseconde près. Voilà. Ouais, mais ça, je pense que c'est quelque chose à creuser qui est assez intéressant. Pourquoi aujourd'hui on a cette exigence-là de pseudo-scientificité ? Parce que c'est une pseudo-science. Hein.
Oui, moi j'ai une anecdote. L'autre jour, je marchais et j'entends près de moi une voix qui dit Vous avez utilisé tant de calories. Qui c'est qui me parle ? Et pas du tout, c'était un couple de personnes âgées et il y avait le monsieur qui était devant et qui vraiment allait très vite parce que sa machine nous parlait, quoi. Et j'ai failli éclater de rire, quoi. J'ai dit, voilà, on est, en effet, quel intérêt entre le fait de marcher une heure et le fait d'utiliser tant de calories, quel est le rapport? J'avais envie de sortir une blague, je veux dire, ils s'achètent un chien, ils sortent quatre fois par jour et ils utilisent autant de calories. Mais ce truc, c'était quand le moment où les gens parlaient, vous savez, parlent tout seuls dans leur iPhone, ça m'a fait le même effet de quelque chose de complètement surréaliste. Et c'était des personnes âgées. Et en plus, on le verra cet après-midi, parce qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, mais on le verra aussi, c'est qu'il y a une différence entre le gadget et l'objet connecté. Parce que Patrick Lacouture, qui a travaillé avec nous à l'organisation de l'après-midi, nous dit que de toute façon, les objets connectés que vous achetez dans les grandes marques, etc., pas cher, d'où aussi la fracture sociale, parce que l'objet connecté, plus il va être cher, plus il va être performant. Donc il y a des gens qui vont pouvoir se le payer et d'autres non. Donc certains objets connectés ne sont que du gadget. Les infos, de toute façon, ne sont pas bonnes. Ça, c'est important. Et ce qui me tracasse surtout par rapport à ça, c'est le fait de la fracture sociale. Parce qu'on a parlé des smart cities, donc on a une ville connectée, il y avait des reportages très intéressants sur des villes asiatiques qui sont des appartements tellement connectés que vous êtes complètement fliqué si vous n'arrivez pas à un certain quota. Il y a que, je sais pas, il y a des Asiatiques qui arrivent peut-être à manipuler tous ces objets, toutes ces données, parce qu'ils sont nés là-dedans. Mais c'est quand même grave que dans votre appartement, on sache à quelle heure vous avez mis le chauffage, à quelle heure vous l'avez baissé, à quelle heure vous avez votre lessive, à quelle heure vous avez regardé la télé. Donc il y a un tableau de bord et en fait qui est sans doute connecté à une centrale, entre guillemets, et qui dit attention, etc. Donc attendez, posez-vous des questions quand même sur ce genre de choses. Ce qui m'inquiète par rapport, on a parlé de la Smart City, mais la campagne ne sera jamais intelligente. Est-ce que la campagne smart, est-ce que ça sera seulement les tracteurs des agriculteurs? Il faut voir aussi les dégâts que ça fait. Donc bon, si c'est pour réguler les pesticides, pourquoi pas? Mais la fracture numérique, elle est déjà là. Vous habitez à 20 km de Poitiers, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet. Donc ne parlez pas après d'objets connectés comme ça qui vont descendre du ciel. Donc ça, c'est une vraie question. Parce que ceux qui vont pouvoir l'acquérir, etc., celui qui va être parfaitement connecté, le citoyen connecté, mais il va habiter en ville, dans un certain type de ville, il va avoir accès à une certaine culture, etc., etc. Donc voilà, on se pose quand même la question aussi, c'est un forum citoyen, et quid de citoyen là-dedans, quoi.
C'est vrai que la fracture restera, mais pas nécessairement. Parce que là, je sors la question à celui qui fait de la technique, pas nécessairement. Parce que nous, par exemple, au laboratoire, on a des projets qui sont destinés... Aujourd'hui, ce n'est même pas les villes. Hein. On dit Poitiers. Est-ce que Poitiers pourra être une ville intelligente? Est-ce qu'elle a les mêmes moyens que Paris, Lyon ou Nantes? Aujourd'hui, quand on candidate au grand appel à projet H2020 sur les Smart Cities and Communities, donc les agglomérations et villes durables, quand on est La Rochelle, on ne gagne pas. Quand on est Nantes, on gagne. Quand on est Lyon. Donc c'est vraiment... C'est métropole. C'est des villes, pas de plus de 100 000 habitants, mais des agglomérations du plus... avoisinant le million, voire plus en Europe, avoisinant les 5-6 millions en Asie, en Chine, ou plus, parce que c'est ça pour une ville moyenne. Nous, on a monté un projet avec des entreprises et des PME où on s'est dit, quid des villes entre 30 000 et 150 000 habitants? Quelles sont les solutions technologiques qui sont les plus adéquates, les moins onéreuses pour ce type de ville? En campagne aussi. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais discuter avec les officiels de la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la ville de La Rochelle, elles me disent « Oui, mais il n'y a même pas le très haut débit. Comment voulez-vous faire du connecté ?» Mais si, il y a des technologies
qui ne vous permettent pas de vous connecter à Internet, mais qui permettent de connecter une éolienne qui se trouve au beau milieu du... non, on ne va pas la mettre dans le golfe de Gascogne, on va plutôt prendre dans le Morbihan. Donc voilà, donc vous pouvez avoir, ou en Normandie, des éoliennes à distance, parce que ça consomme très peu, et ça permet de faire une maintenance, et se dire, l'éolienne, elle va tomber en panne, je me déplace, je la répare avant qu'elle ne tombe en panne. Ça me permet d'être plus efficace pour ma consommation d'énergie propre et d'éviter des énergies non renouvelables. Et on peut avoir des solutions pour tout cela. Sur tout ce que vous avez dit, moi j'étais complètement d'accord, sauf sur un point, c'est que sur le véhicule connecté, en effet, aujourd'hui le plus gros problème des constructeurs d'automobiles, c'est qu'ils disent, ma voiture elle a une durée de vie deux fois supérieure aux technologies de l'information. Typiquement, si je mets du Wi-Fi dans ma voiture, parce que c'est à base de Wi-Fi le véhicule connecté aujourd'hui, c'est une norme spéciale du Wi-Fi qui est mise pour la communication entre deux véhicules qui se suivent, sauf que le véhicule, quand il sort, il a une durée de vie d'une dizaine d'années. Combien de versions de Wi-Fi ont changé sur mes ordinateurs depuis 10 ans ? On change un ordinateur tous les... Allez, même si on le change tous les 4-5 ans, eh bien, tous les 2 ans, les ordinateurs qui sortent, c'est avec une nouvelle version du Wi-Fi encore plus performante, plus ceci, plus cela. Et donc, ils ont un vrai problème. Ils se disent, je ne peux pas vendre mon véhicule avec un élément qui devient obsolète au bout d'un certain temps. Et ça, en effet, c'est un vrai problème. Sauf qu'il ne faut pas aussi voir les objets connectés que ceux qu'on porte nous. Et en effet, ceux-là, c'est des vrais gadgets. Moi, tous ceux que j'ai vus acheter des objets connectés qu'on met là, ben, j'ai mon beau-frère qui est très furieux de ça. Quand vous rentrez dans sa salle de bain, en fait, il y a le tube de dentifrice, la brosse à dents et ses objets connectés. Qu'il enlève un matin, qu'il oublie de remettre. Et il y en a 3 ou 4 comme ça qu'il a laissé dans la salle de bain. Ça lui permet chaque matin de les voir. Il n'en achètera pas d'autres. C'était dans cet objectif. Je lui dis, mais tu ne pourrais pas ranger ? Il me dit, non, ceux-là, non. Je les garde là pour bien les voir. Pour ne pas en acheter d'autres, parce que c'est du vrai gadget. Sauf que l'objet connecté, si vous avez vu la courbe tout à l'heure de Rodolphe Vozel, il y avait une petite partie dont il n'a pas parlé, où il y avait écrit les wearables. C'est ça. C'est ce qu'on porte. Les choses qu'on porte sur soi. Ceux-là, leur marché, il ne va jamais décoller l'épaisseur du trait. Par contre, les autres de l'Internet des objets... qui vont s'installer dans les villes, dans les campagnes, sur une éolienne au bout et qui communiquent, qui permettent de remonter d'une machine à une autre pour mieux gérer l'économie et non pas le social, parce que nous, on aura un impact, on ne s'en aperçoit même pas, et bien là, ça va avoir un impact sur nous. Mais en effet, tous les problèmes ne sont pas résolus, même économiquement. L'exemple du véhicule que vous avez donné tout à l'heure est parfait. Par contre, ça peut sauver pas mal de vies et surtout faire... L'objectif n'est pas que sauver des vies, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi les assurances qui perdront moins d'argent. Parce que l'objectif derrière est toujours économique. Il n'est pas on sauve des vies, enfin, c'est noble, sauf qu'on économise de l'énergie. Je vais passer directement à mon autre exemple. Sauf qu'on économise de l'argent. On vous pousse à économiser de l'énergie. C'est bien pour la planète. Sauf que ça permet aussi d'économiser de l'argent autre part. Donc c'est une économie à chaque fois qui pousse nos évolutions sociétales, n'est-ce pas ?
Je me permets de répondre à quelque chose que j'ai entendu dans votre discours tout à l'heure et qui me permet de vous répondre maintenant. Vous parliez de fracture numérique. Pour moi, et puis pour d'autres d'ailleurs, c'est pas que moi, la fracture numérique, ça participe exactement du même mythe que ce que je dénonçais juste avant. C'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, c'est cette fracture numérique le problème, c'est-à-dire cette espèce de frontière qu'on met, il y en a d'un côté qui ont et les autres qui n'ont pas, parce que c'est bien... basé sur de la possession, hein, la possession d'objets. Et ça a pour conséquence de dire, ah bah, si on veut résorber tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Éventuellement, financer des tableaux interactifs dans les classes plutôt que de financer des nouveaux instituts. C'est éventuellement financer des nouveaux PC, parce que s'il n'y a pas de PC, vous vous rendez compte, catégories socio-professionnelles, elles ne vont pas pouvoir gagner en confort social. Et y a ce discours aussi qui a un déterminisme, cette fois-ci de l'innovation, qui est une variante du déterminisme technique. Et finalement, on voit que c'est le cas avec l'évolution aussi des objets connectés, on est tout le temps potentiellement fracturés numériques, d'une certaine façon. C'est M. Guichard qui dit ça, fracturés numériques. Et pourtant, on se rend bien compte du ridicule. C'est pas le fait qu'il y ait du haut débit, par exemple, qui va nous rendre plus aptes socialement, plus intelligents, etc. De la même façon qu'on jugerait pas l'intelligence de quelqu'un sur la taille de sa bibliothèque, on va pas juger quelqu'un sur la taille de son processeur. Voilà. Alors, ce qu'on nous vend, c'est toujours il faut que ce soit plus puissant, il faut que ce soit plus ceci, plus cela. au final, ce qui passe surtout, c'est le débit, à quoi il sert? Il sert à de la publicité, en très grosse partie, à des spams, en très grosse partie. Enfin, il y a vraiment une grosse partie du débit qu'on dit, il faut la fibre, il faut ceci, il faut cela. C'est du déchet, hein. Et cette course à l'innovation, elle masque vraiment des problèmes d'inégalité sociale qu'on ne veut pas forcément régler.
Et le haut débit, ce n'est pas pour nous.
Non,
c'est
voilà.
C'est pour nous, utilisateurs. C'est pour les entreprises, pour qu'ils envoient
la publicité.
C'est pour ça qu'on veut mettre le haut débit partout. Pas pour l'utilisateur final, c'est pour générer de l'activité économique. Sur ça, on est d'accord.
On en reparlera peut-être, mais il y a aussi les capteurs. Hein. Les capteurs, il y en aura énormément. Ça capte de l'énergie. Quid de cette énergie? D'où elle va venir, etc. On parle de transition énergétique. Bon, là, tu as parlé des éoliennes, ça me rassure. Mais bon, tous ces capteurs dessous, les déchets, etc. Donc, on en parlera cet après-midi.
Les déchets, en effet.
Et les déchets.
Énergétiquement, ça ne consomme pas beaucoup. Par contre, ça génère des déchets électroniques énormes. On a parlé de, suivant les études... J'ai pris l'extrême, 50 milliards d'objets, qui, avec une obsolescence qui peut arriver. Donc tout cela n'est en effet pas réglé. Et puis, si je défends les objets connectés, c'est peut-être aussi pour défendre ma corporation. Donc est-ce que j'en suis convaincu ou c'est parce que l'aspect économique qui m'intéresse? Question philosophique pour finir. Éthique, oui, exactement. Donc merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et encore une fois, merci à Anne et à Thierry, donc, qui viennent de sortir, qui ont organisé cette journée d'une main de maître.